Radio Galera. La radio Chiaram a contro il culo.
Et vous écoutez Bande Originale Organisée. Fermez les yeux les amis, vous y êtes, les corps sont moites, les épidermes se frôlent, la lumière tabasse et vous hésitez encore une fois à vous jeter dans le grand bain au rythme métronomé et tempestif de ces marées qui font vrombir votre appareil auditif. Un petit doigt de pied d'abord et puis vous plongez, quitte à vous immerger tout entier par la musique des vagues ou plutôt par les vagues de la musique. Ce n'est surprise, pas à la plage que Bande Originale Organisée dépose aujourd'hui son paréo, mais en boîte de nuit à la rencontre de ces lieux de fête et de cette étrange faune nocturne qui la compose. Une faune nocturne qui se fait belle pour avoir chaud et qui a surtout offert au cinéma quelques-unes de ses scènes les plus légendaires, scènes tantôt romantiques, tantôt débauchées, mais toujours et pour toujours ô combien frénétiques et caliente. Alors vous en connaissez certaines, au moins, dans la fièvre du samedi soir, Terminator, John Wick, Scarface, Austin Powers, Showgirls, et dans beaucoup d'autres. Mais par-delà les poncifs, par-devant les figures de style, que peuvent bien raconter ces scènes de clubbing dans les films? Quels sont leurs intérêts, leurs enjeux visuels ou narratifs? Que disent-elles autrement de ces protagonistes? Comment ont-elles aussi peut-être façonné, dans un jeu de ping-pong entre l'écran et son public, des us et coutumes festifs qu'il nous faudrait déconstruire? Et pour se poser ces questions passionnantes, ces insolubles questions, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de prestige. Ça fait très longtemps que j'espère animer une émission avec lui. Antoine, bienvenue dans les studios d'Ordre du Galère.
Hello Nico.
Alors Antoine, biographie non exhaustive, tu es un DJ qui fait valser les dance floors de l'Europe. Tu es sous le nom de scène NTN. Tu es également l'un des géniteurs du système son IKSE.
Exactement.
Dont on fêtait l'anniversaire il y a quelques jours, semaine, à Jeanne Barré.
Exactement.
Un anniversaire festif.
Voilà.
Et puis bien sûr Antoine, tu es le disquaire de l'échoppe déjà légendaire à Marseille, l'échoppe qui fait chanter les oiseaux et les oreilles, rue Consola.
Dishonored Marseille.
Bien
au
sûr.
42 rue Consola.
L'éternel Dishonored.
Bon, pour ce qui est de faire valser les dance floors d'Europe, ça reste quand même très sporadique et ça reste quelque chose de très récréatif et très occasionnel.
Bah t'étais notamment à Turin il n'y a pas longtemps.
Oui, dance floor légendaire.
Un dance floor légendaire, tu m'en as dit. Et d'ailleurs, t'as fait de la radio, tu me disais, dans une autre vie.
Un petit peu, ouais. Un petit peu par le passé. J'en ai fait. J'ai passé une année à Valence. Je passe le bonjour aux collègues de Radio Méga. J'ai après à Paris sur Radio Nova pendant une année. Parler des sorties vinyle, donc il y a un domaine que maintenant
tu commences à maîtriser, ouais.
Un petit peu, enfin oui, ouais. c'est le métier. Et voilà, donc c'était ça, c'était les quelques moments d'expérience radio vraiment parlé, quoi.
Ouais.
Après sinon le reste du temps c'était plutôt sur des web radios où là j'officiais plus en tant que DJ avec des mixtapes, quoi, tous les mois, donc sur Lille Radio pendant plusieurs années.
Super radio.
Big up à Lucas et big up à Marine aussi qui qui s'occupait de nous à l'époque sur l'antenne de Lille Paris.
Parce que Lille qui a une antenne à Marseille aussi là.
Exactement. Depuis 2 ans.
Ouais. Ah, c'est aussi récent que ça ?
Ouais, ça fait 2 ans. Non, un peu plus. Non, je dis ça, ça a commencé en 2021. Ça fait 4 ans.
Ouais, 4 ans déjà.
Ouais.
Mais donc, t'es venu nous parler de scènes de clubbing.
Oui, en fait, voilà, ça fait un moment qu'on parlait ensemble de ciné, qu'on parlait de ce qui nous faisait marrer, ce qui nous déprimait, ce qui nous animait dans le cinéma en général.
Tu mets les films de Jean-Claude Van Damme dans quelle catégorie là ?
Plutôt la première catégorie, ouais. Quoi. C'est vraiment ce qui nous animait. C'était d'abord le premier plot, c'était les bandes-sons de Jean-Claude Van Damme, mais j'avais vraiment la flemme de me refaire la filmographie pour aujourd'hui. Non, par contre, voilà, j'ai vu un film il y a quelques semaines de ça qui m'a mis une tarte. Un film de 63 d'Akira Kurosawa. Qui s'appelle donc Entre le ciel et l'enfer, High and Low, en japonais c'est
Tengoku. Oula, ouais.
Tojigoku.
Tengoku Kujigoku. Ouais.
Donc film de 63 en noir et blanc, film noir d'Akira Kurosawa qui avait été édité dans les années 2000 par Whiteside en France dans un coffret des films noirs donc d'Akira Kurosawa. Dans ce coffret, on retrouve 3 films. Un chien enragé, vieux film donc de 1949 de Kurosawa, assez tôt.
Un de ses premiers d'ailleurs.
Un de ses premiers. Ouais. Les salauds dorment en paix et donc Entre le ciel et l'enfer. Entre le ciel et l'enfer, c'est un thriller visionnaire. L'image, un noir et blanc magnifique. Un tempo parfait. Enfin, c'était vraiment une énorme tarte. Et à la fin de ce film, un sujet que j'aime beaucoup, à savoir les scènes de club dans les films, c'est un sujet dont j'aime parler pour le meilleur et pour le pire. Je trouve ça souvent foireux. Et par contre, quand ça marche bien et quand c'est fonctionnel, quand c'est vraiment mis... au service du récit, au service du film par les réals, je trouve que ça rend aussi d'autant plus hommage au clubbing ou à la nuit qu'un film qui aurait pour postulat de parler de clubbing. Donc, on se retrouve dans cette scène de High and Low.
Est-ce que tu peux juste raconter un peu l'histoire de High and Low pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ?
C'est
à très grands traits.
À très grands traits, on retrouve donc Toshiro Mifune, l'acteur phare de Kurosawa.
Qu'on a pu reconnaître dans des rôles de samouraï et de ronin.
Oui, plutôt, ouais. Dans une grande partie, une majeure partie de la filmographie de Kurosawa, on retrouve Toshiro Mifune. Au moins au premier plan. Il joue un mania de la chaussure. C'est un industriel qui a réussi, qui a une vie de famille, qui a une vie de famille qu'il met un peu de côté par rapport à ses réussites professionnelles. Il vit dans une énorme maison d'architecte sur une colline qui surplombe les bas-fonds de Yokohama, ville côtière du Japon. Il est sur le point de faire un deal qui va bousculer sa vie, un deal de thunes qui va bousculer sa vie, qui est en place de le... Et au moment où ce deal un peu crapuleux s'opère, son enfant, se fait prendre en otage par un inconnu.
Il se fait kidnapper, avec rançon.
Kidnapping avec rançon à la clé. Sauf qu'il y a un twist. Est-ce que je le révèle ? C'est un twist de début. Révèle ?
Oui. C'est essentiel pour...
Le gamin qui se fait kidnapper n'est en réalité pas le gamin de Toshiro Mifune, mais c'est le gamin de son chauffeur. Les deux gamins jouent ensemble. Le kidnappeur a confondu. C'est barré avec le gamin du chauffeur.
C'est un pitch génial.
Et ça, c'est juste le début. Ouais. En fait, donc ce personnage principal se retrouve à devoir faire un choix, à savoir est-ce que il décide de n'en avoir absolument rien à faire et de poursuivre ses bails de thunes et de laisser le gamin de son chauffeur face à un avenir incertain, ou est-ce qu'il fait preuve d'humanité et décide de payer cette rançon malgré tout et de mettre donc de côté ses aspirations professionnelles? Un choix s'opère, une enquête s'ensuit. Après, voilà, le film se construit vraiment en deux parties. L'enquête policière donc, prend le pas. Et on retrouve une équipe de police trop classe, ouais, qui met des gens sur écoute de façon hyper efficace, hyper habitée.
Ouais.
Et
cette équipe de police va tracer
le kidnappeur et va le poursuivre à un moment dans les sous-titres appellent ça un bouge. Un bouge, donc c'est un établissement nocturne peu fréquentable. Ouais. Nocturne ou non, mais un établissement peu fréquentable. Le kidnappeur retrouve quelqu'un dans ce bouge. Ce bouge est un nightclub en fait, avec une bande son plutôt d'époque, donc plutôt du années 60, donc plutôt du cool jazz, hard bop, des styles de jazz qui ont après illustré qui ont après flirté avec les séries. Je vais nommer une série de genre comme Cowboy Bebop qui après a repris un peu ses.
Mais ça permet de donner une atmosphère.
Voilà,
musicale,
on situe à peu près l'atmosphère musicale. Et scène de. Donc, une longue, très longue scène de danse. Avec des GI américains, Marines, qui sont affrétés au Japon à l'époque. Et pas de paroles, juste des actions qui se passent sous nos yeux, qui ont le kidnappeur retrouve une interlocutrice, ils échangent quelques mots, on n'a aucune idée de ce qui se dit. La musique est mortelle et la lumière est folle. Et c'est justement cette scène qui m'a donné envie de parler de clubbing au cinéma ce soir.
Est-ce qu'on écoute cette scène ?
On écoute cette scène.
Allez, vous écoutez Bande Originale Organisée sur les ondes de Radio Gutter. Écoutez Bande Originale Organisée. Quel plaisir d'accueillir Antoine Disquer chez Dishonor qui vient nous parler clubbing.
Oui.
Un clubbing très 60s qu'on a écouté à l'instant. 60s japonais.
Oui, c'était la bande-son de Masaru Sato pour High and Low de Akira Kurosawa.
Avec le titre en français Entre le ciel et l'enfer.
Entre le ciel et l'enfer, voilà. Tengoku to Jigaku en japonais. Je le prononce pas forcément très bien.
Tu
on m'en tiendra pas rigueur. En tout cas, voilà, scène magnifique. C'est vraiment je pense que c'est un film. Ça se trouve, je mets vraiment les pieds dans une évidence totale. Mais je veux dire, oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment, c'est un film qui donne envie de bouffer plus de films encore plus. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très bon.
Et puis même dans sa construction technique, c'est un film avec un long travelling, en fait, qui donne à voir une atmosphère, tu sais, genre visuelle.
Ouais, ouais.
Et en fait, qui nourrit par le sens du détail. Tu parlais des GI tout à l'heure.
Ouais, ouais, ouais.
Et par la fille qui va être ramassée, hein, disons-le, ouais, par ouais. le kidnappeur. Tu ouais. vois, ça approfondit. Je trouve que ça donne une espèce de verticalité dans cette scène.
Ouais,
y a avec un décalage aussi musical. Qui, là, la musique qu'on a écoutée qui est très lancinante. Bah, lancinante. Et on voit des gens danser de manière beaucoup plus effervescente. Quoi.
C'est ouais. ça. Et le. Donc, le. Comment dire, le. Cette scène aussi reflète, enfin je trouve que Kurosawa fait quelque chose de très très bien là-dedans. En fait, il utilise ce rempart de la nuit, une espèce de petite marée humaine, pour explorer techniquement des procédés intéressants de caméra. On va retrouver des jeux de lumière qui sont très enfin qui sont visionnaires pour l'époque quoi. Enfin vraiment c'est... ouais on est en 63 quoi donc le film a 62 ans c'est dans la pureté de l'image aussi de tout ça on retrouve la soif du mal d'Orson Welles Soy Kubat de Kalatozov c'est des films qui sont dans des espèces de voilà splendeur visuelle. Voilà. Donc cette scène, justement, l'aspect technique et l'aspect un peu plein les yeux du réal entre le ciel et l'enfer, bah là je trouve que, étant donné que la scène est dans un... c'est dans un bouge et ça possède un enjeu narratif, donc l'enjeu narratif qui est de, à savoir, produire une action illégal ou une action en soum-soum. On utilise le club pour qu'un personnage A puisse accomplir une action B qui soit plutôt, en général, qui doit rester discrète.
Ouais, voilà. Il y a la drogue, la prostitution.
Voilà. Ou ça peut être un meurtre, ça peut être plein de choses. Voilà. Une action tabou qui aura lieu donc dans ces établissements, donc le fameux bouge. En France, on retrouve ça quelques années plus tard dans le samouraï de Melville, où le jazz club du film en fait sert de point un peu d'aller-retour. Delon va prendre ses commandes, va rencontrer Delon qui est vraiment pas bavard dans ce film, mais va justement les quelques interactions qui le feront avancer dans le récit. Se passe dans ce club, ce jazz club parisien. Et je pense qu'il y a vraiment, à mon avis, une influence claire des films noirs de Kurosawa sur le cinéma de Melville de la fin des années 60.
Mais ce que je trouve intéressant aussi dans cette scène d'Entre le ciel et l'enfer, c'est le fait de noyer le personnage dans une foule, tu sais, genre dans un anonymat,
ouais.
qui lui permet, tu sais, genre de rester le plus possible, tu sais, genre hors des sentiers battus de la police. Et donc, du coup, il y a vraiment cette espèce d'enjeu visuel et narratif qui est un peu de noyer le poisson, littéralement.
Ouais, complètement, ouais. Enfin, et ce qui est intriguant dans cette scène, c'est que les policiers vont suivre l'antagoniste. Mais vont également se perdre dans cette foule de danseurs. Et le spectateur va également se... En perdant les policiers, en perdant le kidnappeur, Kurosawa perd aussi le spectateur. Et l'emmène du coup d'autant plus dans une espèce de tourbillon... De
labyrinthe.
De labyrinthe nocturne.
Ouais.
Et je pense que très peu de gens ont accompli ou réussi... ces 60 dernières années, je pense à transférer cette sensation de perte qu'on retrouve dans le nightclub, en fait, qu'on retrouve dans cette sensation d'aller dans un club à l'étranger, genre waouh, c'était immense, j'ai perdu mes potes. Je trouve que peu de films récents ont réussi à mettre le doigt là-dessus, là où Kurosawa le fait. Avant que le clubbing existe. C'est quelque chose de... c'est fort. Je trouve ça fort. Je trouve ça... C'est peut-être complètement tiré par les choses que je dis.
Ben non.
Mais je pense, je pense que c'est quand même un... Je pense que c'est un geste assez...
Virtuose, en vrai.
Virtuose.
Ouais. Virtuose. Et pour accompagner cette scène,
accompagner cette scène, j'ai choisi un morceau d'un groupe qui s'appelle Gero Geri Gegege, qui est un groupe de noise assez culte japonais des années. Donc ça a commencé milieu des années 80, 85, avec vraiment un groupe plutôt qui fait partie de cette. Ouais, de la scène arch noise japonaise, un peu les fondateurs de cette scène très extrême. Il y aura donc Gero Geri Gege, il y aura également ce groupe qui s'appelle Anatarash, qui sont vraiment les groupes qui ont poussé les curseurs de la noise au Japon. C'est sorti il y a de ça 6 ans maintenant, 2019, sur le label Trilogy Tapes, label de l'ami Will Bankhead à Londres, donc un label électronique plutôt à vocation clubbing expérimentale. Qui là a reçu du coup un disque de Gero Geri Gegege sur son catalogue, qui est un album expérimental qui rend justement hommage à ces bouges japonais. Le nom de l'album, c'est Uguisudani Apocalypse.
Mais décidément, ton japonais est admirable.
J'ai juste une bonne mémoire des noms, mais c'est donc le Uguisudani Apocalypse, c'est un. C'était un hommage à des nightclubs gays, sauna gays japonais. Et c'était la bande-son fictive de cette scène des saunas qui est parue du coup sur le label Trilogy Tapes en 2019. Ça, c'est le morceau qui introduit et je trouve qu'il fait très très bien écho au film noir de Kurosawa qu'on vient de citer. Donc, Gero Geri Gegege sur Trilogy Tapes ou Uguisudani Apocalypse. Le morceau n'a pas de nom. Les morceaux n'ont pas de nom sur le disque. Un untitled, voilà.
Allez, on fait un grand écart entre le jazz des 60s et la noise des 80s.
Ça tout reste ça, du jazz. Enfin,
ça reste du jazz.
Tu vas capter.
C'est un morceau que je découvre avec vous.
Voilà.
Et je suis très heureux. Allez, bougez pas, on se retrouve juste après ça. Et vous écoutez toujours Bande Originale Organisée, toujours en compagnie de Antoine, qui nous fait le délicieux plaisir de venir les poches pleines de titres inédits. On écoutait juste avant un titre de Noise Jazzy.
Alors en fait, c'est les artistes derrière ce titre, le titre est un morceau de jazz, les artistes derrière ce titre sont des légendes de la noise japonaise. Et dans la... Je fais une petite parenthèse en fait, pour situer un peu donc, ce groupe, mais d'autres groupes. Je parlais d'Anatarash à côté, qui est un autre groupe assez culte de noise, de harsh noise japonais, parce que c'est vraiment... C'est assez extrême, c'est des musiques assez extrêmes normalement. On retrouve dans les discographies de ces artistes des interludes plus... calme, des interludes parfois exotica, parfois ambiante, parfois musac, parfois jazz, comme ce qu'on vient d'écouter à l'instant.
C'est-à-dire que dans un album qui est vraiment noise, tel qu'on peut l'imaginer, il y a cet incarta jazzy.
Je veux plutôt dire que ça va plutôt être des albums qui font office d'incarta dans les discographies. D'accord, c'est-à-dire que là, tout l'album, cet album-là est globalement
dédié à cette full jazzy. Sonorité, ouais. Sonorité, ouais.
Et voilà, il y a juste, par contre, il y a juste un morceau de punk hardcore sur ce disque.
Okay.
Donc c'est vraiment un disque vraiment très très Uguiso Dani Apocalypse de Gero Geri Gegege. Vous l'aurez pas, c'est normal.
mais sur je le mettrai sur le site.
Voilà,
les références.
Et le donc sur par exemple Anatarash, autre groupe de noise japonais, qui s'est on retrouve des interludes, des CD, des disques principalement sortis en CD, donc à l'orée des années, l'orée des années 2000, fin des années 90. On va retrouver des CD qui sont littéralement vendus comme de la musique d'ascenseur, sauf que c'est un groupe, les groupes derrière cette initiative, s'est fait interdire de scène au Japon, parce qu'ils avaient eu la bonne idée de ramener un... d'exploser la salle de concert à laquelle dans laquelle ils jouaient avec un bulldozer. Donc il y a vraiment on voit un footage vidéo de cette scène, ça s'est produit. Après,
c'est presque de la performance.
C'est souvent très performatif. On parle parfois de scarification, beaucoup de légendes urbaines qui. Je pense qu'ils ont fait beaucoup plus que ce qu'on a attribué à Marilyn Manson dans les années 90-2000, qui était vraiment beaucoup de bruit.
Ouais, beaucoup là, de marketing.
Eux,
réalité,
pour le coup, c'était voilà, ils mouillaient le maillot. Et l'épisode d'Anatarash, c'était un coup de bulldozer dans la salle où ils performent qui leur a valu d'être interdit de scène pendant des décennies au Japon. Voilà, c'était petite parenthèse pour contextualiser ce morceau de jazz de Gero Geri Gegege qui rend hommage au bouge. Donc, japonais des 60 dernières années qu'on retrouve notamment dans Entre ciel et enfer.
Et on va faire un nouveau grand écart. Cette fois-ci, on va traverser l'Atlantique.
Exactement. On traverse le Pacifique là du coup.
Ah oui, pardon.
De l'autre côté, on traverse du Japon jusqu'aux États-Unis.
Je suis nul en japonais et en géographie.
On se retrouve du coup avec. J'ai choisi Carlito's Way, donc l'impasse de Brian De Palma, sorti en 93-94.
93,
donc Al Pacino qui joue le rôle principal de ce film, un ancien truand qui a donc purgé sa peine, décide de se ranger. Il veut ouvrir une agence de location de bagnoles, si je dis pas de conneries. Mais temporairement, donc, un acolyte lui propose donc d'être tenancier de club pour avoir un job officiel. Donc il est tenancier de club, ce qui lui permet de revenir progressivement de ses années d'incarcération et de remettre la tête dans le grand bain. Le problème, c'est comme on l'a déclaré, on en parlait plus tôt, c'est que le club reste un endroit de
perdition. Imprimé de connotations négatives.
Voilà, la nuit, la tease, la drogue, le trafic. Là, c'est la fin des années 70, du coup, c'est l'effervescence disco à New York. Pleine période Studio 54, Paradise Garage.
Ouais. Pleine période cocaïne aussi.
Pleine période cocaïne. Ouais. Grosse montée de la coke et puis de l'héro en fait aussi en parallèle aux États-Unis à New York. Donc Al Pacino va jongler, va vraiment vouloir tout le long du film fermer les yeux, garder la tête froide et ne faire le moins de conneries possible. Mais le passé le rattrape toujours, les anciens ennemis le rattrapent toujours. L'extrait que j'ai choisi, donc, j'ai choisi un extrait de Carlito's Way où il est en club et on entend du coup c'est une incartade entre des anciens amis qui ne sont pas des amis. On va le comprendre avec le monologue intérieur. Du coup, c'est Carlito's Way.
Speech Club. Ouais, club speech.
Club speech, voilà.
Allez, let's go.
Joint. Come on, sit down. Have a drink with us. Come on. Sit down.
I said shit. I ain't seen Clay doing what? 15 years?
15, yeah, God.
I'm sure.
Long time.
Long fucking time. Sorry. Joe Battaglia?
My pleasure.
Johnny Manziero?
Johnny.
How you doing, buddy?
Valito Briganti. He included the pushing of this gang back in 57, 58.
Ah,
you know,
yeah.
A couple of fucking kids. First time I saw this gang, I thought it was Italian.
Look at him, look at that face.
Shit. Pete Amadesso walks into my club just like that. Bullshit. There's an angle here. Pete's a made guy. His uncle's a heavy hitter with the Pleasant Avenue bunch. What's he doing here? Probably Tony T's people sent him. Maybe he's watching me, seeing if I break, waiting for me to panic. They still don't know for sure if I was on that boat. They think, but they don't know. Because if they knew, I'd already be dead. Right now, they're just watching me.
That was the guy. That's who he is. Now, we gotta know that. So anyway, so I says to the guy, hey, Tommy, Calico ain't no fucking nigga. Look at the way he dances. He dances like an Italian. You should see him do the Donatella.
Un morceau, c'est Lady Marmalade de... Juste, je sais plus qui, je sais plus si Lady Marmalade c'est le nom du groupe, enfin bref, c'est Lady Marmalade qui passe en fond. Al Pacino retrouve des vieux amis, il est tout hilar, ils sont hilar, ils sont contents de se retrouver. Puis monologue intérieur, ce ne sont pas du tout des vieux amis, ce sont des sacrés, ouais, des anciens ennemis qui ne lui veulent pas de bien. Et donc monologue intérieur d'Al Pacino, la musique toujours en fond, on a toujours des danseurs autour. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la perdition de la nuit, parce que c'est très structuré. L'ambiance de cette salle, c'est lui qui est en haut d'escalier. Il y a une table avec les bad guys et quelques danseurs autour. C'est presque salle des fêtes. Couleur très rose, couleur très néon rose, néon. On est très très 70s dans le
Et en fait, on est dans ce qui va synthétiser presque la scène de club dans les films de gangsters, en fait.
C'est oui,
le
ouais.
décorum qui est extrêmement glamour, extrêmement pimpant, mais dans ça, il y a un jeu d'échecs.
Oui,
et il y a un rapport de force entre des gens qui ont
C'est ça. Ce qui arrive souvent, peut-être que j'en ai pas parlé Enfin, je vais pas trop en parler ce soir, je pensais pas en m'attarder dessus, mais Les Sopranos. Les Sopranos, ça reste une des dernières séries mafieuses à avoir aussi bien mis le club au devant de la scène. Parce qu'il y a une planque donc, qui s'appelle le Badabing, qui est le strip club de Silvio Dante. Et bande son de fou tout le temps, parfois des moments purement contemplatif dans ce club, ou juste des échanges très gratuits, parfois des moments de violence très graphique. Mais ouais, donc je trouve que les curseurs sont poussés au max dans Les Sopranos, mais dans Carlito's Way, on retrouve très bien donc le club avec cet enjeu narratif là, c'est les tenanciers de club, là, pour le coup. Comme dans Les Sopranos, en fait, c'est les propriétaires de club. On n'est pas à la place du danseur, on est à la place du limonadier qui va c'est souvent j'appelle un limonadier malheureusement beaucoup de patrons de clubs en France qui vont être des patrons de bar qui poussent l'heure un peu plus loin et qui du coup ouvrent des clubs pour vendre de la tease. Là voilà, on est de l'autre côté de la barrière dans le club, on est du côté de du tenancier. Al Pacino n'en a pas vraiment grand-chose à faire de la musique dans ce film. Voilà, il est pas là pour que les gens passent un bon moment. Il est là lui pour faire de l'oseille et sortir très rapidement de ça pour ouvrir son car glace. Donc c'est C'est ouais ouais c'est marrant parce que ouais, ça fait écho donc assez par rapport à la scène précédente, ça fait il y a un écho assez assez inattendu par rapport à la scène de High and Low, en fait, où là où on était vraiment à la place du clubbeur, cette fois on est à la place d'un patron dans Carlito's Way. Un autre côté qui me plaît beaucoup dans Carlito's Way, plus que dans Scarface justement de Palma, qui est 10 ans plus tôt.
Les deux films qu'on associe beaucoup.
Voilà, ouais. Donc Scarface, ça arrive 10 ans plus tôt. C'est
Al Pacino aussi.
Avec ouais. Al Pacino, donc voilà. Donc les gens attendaient l'impasse avec une attente de Scarface 2. Mm. Sauf que le film est beaucoup plus en retenue, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus...
Avec un jeu d'acteur complètement différent pour Al Pacino, qui est très exubérant dans Scarface.
Ouais, ouais, et là, il est très sobre, très... Ouais. Ça reste Al Pacino, il a des pics de colère.
Bien sûr,
ouais. Il est très touchant dans ce film. Et ce qui est beau aussi, je trouve, dans Carlito's Way, c'est un moment où... Il y a une bande-son de New York, en fait, qui transparaît très bien dans ce film. Parce qu'on est dans les années 90, on a déjà du recul sur ce qu'était New York dans les années 70. Donc, New York dans les années 70, c'est l'avant-hip-hop. C'est donc là, pour le coup, ça va être la fin du disco. En parallèle de ça, les communautés latino-américaines avec les grandes sœurs, les grands frères qui écoutent de la salsa sur les perrons. On a ça qui transparaît dans Carlito's Way. Et on a justement des scènes de salsa aussi dans le club, mais pas que dans le club. On a une scène très, très tendue dans un bar, un club de billard, en début de film. Donc Al Pacino retrouve son petit cousin ou accompagne son petit cousin pour faire une magouille dans un bar de billard. Rien ne va. Mais tout est en tension et le morceau qui défile derrière, pour accompagner toute cette tension est un contraste parfait. C'est El Watusi de Ray Barreto, le morceau de 63 de la légende de salsa Ray Barreto sur Fania, qu'on va écouter maintenant.
Allez, vous écoutez bon l'original organisé.
Watusi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo.
A mí, todos me tienen miedo.
No me digas que a ti te tienen miedo porque yo sé que me fajo con cualquiera.
Más grande que yo no hay ninguno.
Ah, 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 vamos a fajarnos.
Cuando quieras.
Nos fajamos, Watusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa?
Nada.
Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti.
Palo nada más.
Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo...
Siete pies tengo yo.
A mí no me importa que tú tengas siete pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Watusi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, 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 ah. Como te me río en la cara, Watusi.
A correr.
Bien. Nos bajamos.
Un morceau de salsa pour nous plonger dans le clubbing de Carlito's Way.
Ray Barreto, El Watusi, sur Fania Records, un morceau de 1963. Donc oui, j'ai choisi ce morceau, bon, parce que il est dans le film, mais aussi parce que c'est un témoin d'un... C'est un argument musical qui me plaît dans Carlito's Way, en fait, qui est cette histoire un peu... Cette présence de la salsa à New York dans les années 70, en fait, qui est aussi omniprésente dans beaucoup de block parties à l'époque, avant que les premières block parties, enfin 10 ans plus tard, dérivent sur le hip hop, quoi. Mais ouais, c'est, je trouve que Carlito's Way, c'est une super carte postale du New York de cette époque-là.
Et surtout, ce qui est intéressant dans la salsa, ou du moins dans le fait de placer le clubbing sous le signe de la salsa, ça indique le côté communautaire, le côté culture, le côté on se rassemble dans un même endroit pour écouter une musique qu'on a en commun.
Bah, enfin, puis aussi au-delà de ça, c'est une danse qui est beaucoup plus codifiée que le disco,
ouais. Ah, même s'ils disent quoi, c'est quoi, mais en tout cas que l'électro actuel.
Même, voilà, c'est, même si après, je veux pas vulgariser, parce que c'est vrai que le voguing dans la house, finalement, beaucoup de genres de clubs ont leur danse attitrée. Ouais. Mais j'imagine que communément, quand on allait dans un club où il y avait de la salsa, c'était pour danser à deux.
Ouais.
Là où un club, un bouche disco, quand on voit les images de. Du studio 54 ou du Paradise Garage.
Ne serait-ce que Saturday Night Fever.
Ou Saturday Night Fever. Bah, Saturday Night Fever, en fait, il y a un contest. En fait, il y a même déjà.
Il y a un contexte, mais de la scène d'ouverture.
Il y a un contest, je veux dire, il y a une il y a des battles, je pense.
Il y a une compétition de danse en duo, effectivement. Mais la scène d'ouverture, il y a des gens qui dansent de manière autonome dans leur coin.
C'est comme un club, quoi, au sens. Comme des scènes de club au sens plus actuel, quoi. Mais ouais, comme on disait un peu hors antenne, c'est vrai que ce côté de Al Pacino qui va essayer de reprendre le contrôle sur sa vie dans un club, c'est intéressant parce que on retrouve cette notion, comme tu le disais, de club comme l'endroit de la tentation dans les films, cet endroit où tout devient possible, pour le meilleur comme pour le pire.
C'est vrai que tu parlais de l'enjeu narratif des scènes de clubbing, et effectivement dans cette dans les épopées rédemptrices, on parlait de Basic Instinct en off, à partir du moment où tu vas en club, c'est le moment où tu franchis une ligne grise que tu avais décidé de pas franchir.
Dans les enjeux cinématographiques des années 90 en tout cas. C'est pas censé être comme ça.
Ça informe le protagoniste.
Ouais.
Si tu veux, que là, en fait, il avait des bonnes intentions, mais il est en train de transiger avec.
Il va potentiellement, il peut potentiellement franchir une
mais qui pas d'avoir des comportements déviants, mais c'est de, en l'occurrence, dans Basic Instinct, c'est de se remettre à boire, à fumer.
Donc c'est mettre le protagoniste face à ses démons, en fait.
Face à ses risques, ouais.
Et en parlant de démons...
La troisième
scène de club qui était impossible de squeezer, c'est la scène de Blade, l'ouverture de Blade, donc qui... Blade, film de vampire, fin des années 90, avec Wesley Snipes.
L'éternel Wesley Snipes.
Voilà. Blade, réalisé par...
Alors, je suis en train de chercher, là. C'est réalisé par... Wow. Là, c'est un bon trivia, hein. Si tu l'as.
Je sais que le 2, c'est Guillermo del Toro.
Ah bah, le 1, je peux te dire, j'en ai jamais entendu parler. C'est un dénommé Stephen Norrington.
Stephen Norrington.
C'est qu'est-ce qu'il a réalisé, celui-là?
On va se perdre, là.
Ah, il a fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Un carnage. Ça a été la fin de sa carrière cinématographique, je pense, parce que ça a été
c'est un bon gros bide.
Mais en tout cas,
ce Blade là de 98, il a plutôt bien marché.
Stephen Norrington, ça veut dire qu'il a mis à la retraite Sean Connery.
Ouais, Sean Connery, il est déjà bien à la retraite.
Mais c'est après la Ligue des Gentlemen Extraordinaires que Sean Connery a dit: je ne fais plus jamais de film. Merci Stephen.
C'est true story, ça. Ok, merci Stephen.
Donc, en tout cas, scène d'ouverture de Blade, on retrouve un blond peroxydé américain qui n'a pas de nom. On va l'appeler blond peroxydé américain générique. C'est un personnage, assez commun dans les films de genre horreur, aussi comédie, aussi tout ce qui est série B américaine. Fin des années 90.
C'est celui qui meurt vite, généralement.
Souvent celui qui meurt vite,
Là, on celui qui meurt vite ou qui devient le pote du protagoniste.
Et qui va nous infliger des blagues, qui va nous taper sur le système. Ouais. Il va taper sur le système du spectateur s'il meurt pas tout de suite. Là, pour le coup, il me semble que ça se règle assez vite dans l'histoire de Blade. L'introduction, il arrive en club. Il arrive dans un club et là, c'est grosse techno. C'est plutôt de la techno tendance hard house début 90. Il pousse les portes d'un club et il s'ensuit ça
qu'on écoute tout de suite. We'll be right back. on était en train de piocher dans nos souvenirs pour se dire qu'en fait le blond peroxydé était probablement celui qui débarque dans une soirée vampire pour se faire offrir en sacrifice.
Exactement, ouais, je pense, ouais. Et puis
Blade arrive.
Et puis Blade arrive, ouais. Blade arrive très vite. Et donc on entre dans ce club et c'est en fait là c'est un, on rentre dans un phénomène assez marrant qui est musicalement tout colle aux années 90. On arrive dans un club avec un sound system qui est plus qui est fat avec les sons très voilà, très dans ta face du clubbing plutôt techno qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc le titre en question c'est à savoir c'est
comment ça s'appelle ce titre
c'est en fait c'est en fait c'est
tout le temps qu'on a,
en fait mais c'est le remix de New Order Confusion.
C'est le remix de New Order.
Ouais, c'est un remix de New Order par Pump and Panel qui était un duo de c'était les un des deux membres de Pump and Panel c'était le fondateur de ce label qui s'appelle Missile, qui était le gros label de techno 90s, tendance hard house, donc des ouais, grooves très lourds, très épais. Là, donc
ouais, on très
est sur,
gras, quoi,
très ouais. Gras. Voilà, on est sur de la ouais, tendance acid house, très mais poussé avec les curseurs du milieu des années 90. Et voilà, donc tout colle. On a des tenues, on a les styles collent aux années 90. Il y a un truc qui va pas, c'est le mixage. On arrive dans ce club où il y a ce club, ils sont, je sais pas, ils sont 500, 1000, c'est énorme. On retrouve donc ce blond peroxydé qui se balade au milieu et on dirait qu'il est à un anniversaire. Il pousse des petits.
Wouh!
ça va bien, ouais. Juste.
C'est vrai qu'on l'écoute sans les images, là, ce morceau, on a l'impression qu'il passe un son dans sa chambre, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Il y a sa JBL dans le coin, ouais. Là, qui passe ça. Et c'est donc un phénomène que je trouve intéressant dans ces scènes de club des années 90 sur le mixage sonore. Pour accompagner à la fois les dialogues pour qu'on ne perde pas trop le fil, qu'on capte ce qui se dit, mais également qu'on
soit dans l'ambiance,
soit dans l'ambiance. Mais un autre exemple, donc un autre film que voilà, j'avais parlé de Blade parce que c'était inévitable. Je switch sur The Yard.
Oui.
Je switch sur The Yards, donc
le quatrième film dont tu voulais parler aujourd'hui,
voilà, ouais. Qui est donc par James Gray, donc film de la fin des années 90 avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg. Mark Wahlberg qui pareil a fait des conneries,
qui est en taule, qui ressort, était, voilà, qui veut
plutôt en maison de redressement juvénile, ouais. Je pense un truc comme ça et qui revient et qui est un peu un neuneu, enfin il est un peu un bon fils de famille, finalement il a fait des conneries mais il regrette un peu, lui ce qu'il veut faire c'est être bien dans sa famille et pas replonger.
Ce qu'il veut surtout c'est draguer la meuf de son cousin, non ?
Il y a de ça aussi, ouais. Putain, il y a cet enjeu là qui se passe à un moment, mais il s'en rend pas compte, c'est Mark Wahlberg, c'est ouais. Marky Mark encore à cette époque là, donc la scène de club de The Yard, je la trouve magnifique. Ils entrent dans ce club qui s'appelle le Rio quelque chose.
Club Rio, as-tu marqué ?
C'est le Club Rio, voilà. Ouais. Et la musique qui passe, donc c'est le tube de Bellini, Samba de Janeiro. On va écouter un extrait de cette scène de club. Yeah, but you was always good with people, you know. I'm not too good with words. Hey, you're my best friend. I'm gonna look out for you. I'll get you in. No, it's just I just hope it works out because I would like that a lot, you know. Yeah, I want to work with you. Great, next week. So, what do you think about Belva? She's good from far, but far from good, you know.
Allez, on interrompt un peu la scène pour mais quel kiff d'écouter la voix de Joaquin Phoenix et de Mark Wahlberg quand même. Enfin surtout Joaquin Phoenix qui a quand même une voix iconique.
Ouais, mais dans ce film là c'est pareil, on retrouve les tropes de rédemption qu'on évoquait dans l'impasse. Mm. Mark Wahlberg arrive dans ce club. En fait, je trouve que cette scène est magnifique dans ce qu'elle représente comme. Elle va représenter le club comme cette espèce de polish et de.
Une vernis social, tu veux dire ?
Oui, en fait, un peu des gens qui vont s'inventer des persos aussi quand ils rentrent en club. Des gens qui changent de personnalité, des gens qui ont des quotidiens pas forcément roses et pour qui le clubbing est quelque chose d'essentiel.
Ça, c'est cette honnête figure plein gars, ça.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, là, on retrouve plutôt le côté. Joaquin Phoenix arrive dans ce club avec son cousin et la compagne de Joaquin Phoenix, du coup, Charlize Theron. Ils arrivent dans ce club. Mark Wahlberg a un langage corporel, les mains dans les poches, les yeux, genre, merde, je devrais pas être là ce soir. Joaquin Phoenix est au milieu du trio, il est confiant, il est en costard, il est beau gosse, il est costaud.
Voilà, il est chaud,
il arrive avec Charlize Theron qui est magnifique, enfin, un truc très, culture très virile, quoi,
du clubbing
ouais, enfin un peu le penchant viril du clubbing avec ce côté le dialogue qu'on a entendu, c'est Joaquin Phoenix qui arrive au bar et qui paye un coup à son cousin, il lui fait comprendre qu'il ne paye pas les coups dans ce bar. Il est puissant, enfin c'est son fief, quoi. Sauf que nous on sait que ça se passe, je crois que ça se passe dans New Jersey, donc c'est un club de seconde zone. Ouais. Enfin, c'est pas. Mais il est le parrain de cette petite ville. La scène de club, donc la musique s'estompe pour laisser place au dialogue, puis reprend par de plus belle. Et là, c'est la fête, tout le monde danse et Joaquin Phoenix se tape avec quelqu'un ou se
Se frite, tête contre tête,
vraiment le cliché, quoi. Ouais. Et je trouve cette scène d'une justesse sur un clubbing plus
toxique.
Toxique et très très hétéronormé aussi, et très qui est le clubbing le plus, je pense, qu'on retrouve le plus de la boîte de campagne au club du 16e.
Toutes les boîtes qui écoutent Samba de Janeiro, quoi.
Oui, peut-être, en fait, voilà, ouais. En étant une boîte qui va passer Samba de Janeiro en étant premier degré, il y a de grandes chances que ça dérape.
Mais ce que je trouve fascinant dans cette scène, tu en disais quelques mots tout à l'heure, c'est la communication non verbale. Parce que c'est une scène d'exposition, quasi.
Ouais.
Et donc. Ça pas tout de suite au début, parce qu'on voit d'abord Mark Wahlberg rentrer chez lui, blablabla.
Ouais.
Mais une fois qu'on voit cette scène dans la boîte de nuit, on a tout compris sur les dynamiques à l'œuvre,
du
film en général.
De James Gray. Ouais. C'est clair.
Et ça se passe par des regards, ça se passe par la géographie du dance floor tel qu'il est filmé.
Ouais, c'est clair.
Et je trouve que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis en fait, je trouve que c'est fascinant aussi dans les scènes de clubbing quand parmi la foule, il y a ces percées d'individualité.
Ouais.
Et tu vois ? Et je trouve que c'est vraiment cool, ça.
Et non, c'est clair. Et puis ça fait très bien. En fait, je trouve que dans cette scène, il y a quand même une effervescence, il y a une euphorie. Elle est pas belle forcément, mais il capte très bien la fête. Mmh. Il capte très bien ce que c'est que la fête et ce que c'est que les débordements dans la fête. Et il y a aussi un écho à la scène de Blade avant, par rapport à cette histoire de mixage sonore. Blade, on était dans un club avec 500 participants et le mixage sonore d'une contre-soirée cuisine chez ton cousin. Là, on est dans un club qui a une capacité de 250 personne maximum.
Ouais, c'est pas un grand club.
C'est le petit club avec les habitudes du Loubar. Et les j'ai pas bien retranscrit ça dans l'extrait sonore que j'ai choisi, mais il y a des bruits de stade. Alors les bruits de foule sur les moments de Samba de Janeiro, c'est des bruits de c'est
de foule de 5000 personnes,
ouais, voilà, 50, c'est, ouais. C'est on est à I Love Techno, voilà, alors qu'en fait non, là on est dans un groupe. Donc encore une fois, ce mixage sonore est assez maladroit, mais c'est pas grave parce que la,
ouais,
la scène,
enfin, voilà, c'est, après c'est ça pas... se personnalise parce que c'est quand même une, enfin tout le film est perçu dans la au premier degré, c'est-à-dire au premier,
oui,
enfin,
ouais, parle,
ouais, au point de vue de Mark Wahlberg,
ouais, ouais, c'est,
et je pense qu'il y a quelque chose de très invasif pour lui qui sort de maison de redressement,
ouais, c'est pas, c'est
et donc du coup, ouais, ça se rationalise, c'est peut-être, mais
exactement,
on, ouais, sent, tu sais, genre ça, le monde un peu qui, genre, qui est en train de tomber sur lui, ouais, le, ouais, monde extérieur, et puis aussi le monde sentimental de voir la fille qu'il aime,
ouais, ouais,
dans les bras de son cousin, quoi,
ouais, ouais, c'est clair,
et donc peut-être que c'est lié à ça, écoute.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quasi un trope dans les films de James Gray, les scènes de boîte de nuit.
Ouais, ouais.
Parce que dans La Nuit nous appartient, il y a le, c'est le cas, dans, ouais, Two Lovers aussi.
Ouais, exactement. Ouais.
Très belle scène de Moby que j'adore. Enfin, ouais, de, ouais, avec un track de Moby.
Et ouais, c'est ça. Ouais, il le, mais il le filme bien.
Ouais.
Il filme très bien les univers nocturnes.
Et puis à chaque fois, effectivement, c'est dans des banlieues new-yorkaises.
Ouais.
C'est tantôt à Brighton, Beach, tu vois, c'est dans le New Jersey aussi parfois.
Bah voilà, là,
fin fond Brooklyn,
je sais que...
Son premier film, c'est à Little Odessa.
Odessa, ouais. Little Odessa et Armageddon Time, donc le dernier, se passe à... Si je dis pas de conneries, Long Island.
Ouais,
dans une, voilà, ouais, dans un quartier, ouais, voilà, un quartier de New York,
on sent que c'est, ouais, le, tu vois, tout ça c'est la zone dans laquelle il, ouais, a grandi, ouais, dans laquelle il est inspiré.
Exactement. Bah, Little Odessa, c'est autobiographique, mm, donc voilà. Et bah, j'ai choisi pour conclure,
ouais, puisqu'on arrive en fin d'émission, on a été un peu débordé par le temps, mais vas-y pour conclure.
Là, j'avais choisi pour conclure cette émission un morceau de clubbing brésilien actuel, en fait.
Ah, génial.
Voilà,
ouais,
qui fera écho à Samba de Janeiro. Et c'est MC XZB, ça
MC
fait partie,
XZB, ouais,
qui fait partie de cette scène baile funk contemporaine. Donc c'est scène baile funk contemporaine qui est un peu non, c'est MC
ZKW,
on s'y perd
avec MC Oliver et DJ RD da. Ouais. Des 27.
C'est technique.
C'est technique.
Les blagues sont techniques, mais la musique est assez visionnaire.
C'est une musique de quelle époque ?
Maintenant.
Ah, ok.
C'est, le morceau est sorti l'année dernière. Je crois que ça a 21 millions d'écoutes sur Spotify.
Oh,
enfin,
oh,
c'est,
ok.
Mais
c'est pas le gars qui a fait du rap avec. Enfin, qui a été repris par Neymar et tout, là ?
Non, okay. là c'est vraiment. Ça découle de ça, mais c'est le baile funk contemporain. Mais au niveau des musiques électroniques. C'est quelque chose qui est très bon, c'est très joué maintenant par les DJ un peu underground, mais c'est aussi quelque chose de qui a sa place comme une des musiques les plus innovatrices actuellement sur la scène club. Et donc ce MC ZKW va passer à Marseille ou sera passé.
Ouais,
il sera passé.
On enregistre quel jour ? On enregistre le jeudi 26 juin, donc il passe le 27.
Il passe le 27.
Et l'émission sera diffusée le mardi 3 juillet, je crois.
C'est ça. Donc là, bon, il ouais, sera à la tête de la soirée Slow Life de mon ami Zach.
Cool.
Et donc ce MC de baile funk brésilien à ne pas manquer à Marseille.
Voilà, si vous en entendez dans le passé. Ne la loupez pas. Mais donc on va se quitter avec ce track et j'en profite pour te remercier bien fort Antoine de nous
merci
avoir
toi,
tes sciences cinéphiles et bah peut-être que tu reviendras.
Ah ouais, avec plaisir. Ouais.
Donc ton nom de scène c'est NTN.
Voilà. Après je joue peu mais vous pouvez me retrouver derrière le comptoir de Dishonored Marseille où je propose plein de disques, plein de goodies.
Foncé, voilà, moi j'ai refait toute ma discographie grâce à toi.
Et c'est on espère en faire un lieu de rencontre aussi. Ça fait 4 ans qu'on est là maintenant. Et donc, on remercie les clients qui sont là tous les jours pour faire tourner le spot.
Il y a des gens qui viennent tous les jours ?
Il y a des gens différents tous les jours.
Il n'y a pas les mêmes personnes qui reviennent tous les jours.
Non,
ouais.
Non, non.
Ok, ouais, est-ce que c'est les shows là ?
Non, ça m'angoisserait. Mais voilà.
Bon, mais trop cool. En tout cas, un immense merci
beaucoup,
de nous avoir partagé tout ça. On se quitte avec ce tube visionnaire brésilien. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. Passez un bel été. Écoutez de la musique et regardez plein de films. Bisous, bisous.
Atenção, mulherada. Segure-se na poltrona que vai começar a turbulência. No pique da turbulência, vai tudo sacudir.
Sacode, 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 sacode,
emoção. A tica gosta de emoção. Tá aqui na tica dela no banheiro do avião. Ficou de clima com a mina. Você quer sentar porra dela? Tomou empurrado dela. Tomou empurrado dela. Tomou empurrado dela. Tomou empurrado dela. Tomou empurrado. Vai, vai. A tica gosta de emoção. 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 Tá aqui na tica dela no banheiro do avião. Ficou de clima com a mina. Você quer sentar porra dela? Tomou empurrado dela.
Pega a visão de mais uma braba do RD, tá?
Vai.
É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas. Não tem jeito.
24 por 48, e a favela vai tocar.
Cette radio est une...
Radio Galère.
Notre groupe s'appelle...
La Radio Galère.
Et quelle est la fréquence?
88.4.
On répète 88.4. Soyez les bienvenus.
Et merci.